Tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture.
Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plus personne aujourd'hui n'ignore sans doute l'existence de ce que l'on appelle désormais l'affaire Mila, du nom de cette adolescente lyonnaise de 16 ans dont la vie est bouleversée depuis qu'elle a diffusé une vidéo dans laquelle elle s'en prend à la religion en général et à l'islam en particulier. C'était le 20 janvier dernier. Ce jour-là, Mila, qui tournait en direct une vidéo sur Instagram, reçoit les avances d'un garçon de son âge qui se dit musulman. Comme elle les conduit en se disant lesbienne, le garçon répond en la traitant successivement de sale gouine et de sale française. Et c'est en réponse que Mila poste sa sortie anti-religieuse. Aussitôt, elle est la cible de milliers de messages d'insultes, de menaces de viol et d'égorgement qu'elle reçoit à une fréquence de 200 par minute, tandis que son adresse et celle de son école sont diffusées sur les réseaux sociaux. Elle est alors contrainte à la déscolarisation. À mi-chemin entre la cour d'école et le terrorisme, cette histoire bien dans l'air du temps aurait pu et dû s'arrêter là. Encore est-il fallu pour cela que les adultes fassent leur travail, à commencer par les représentants de l'État qui auraient dû imposer le retour de la jeune fille et condamner d'une seule voix ses agresseurs potentiels. On le sait aussi, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. L'incident est devenu polémique nationale et Mila vit depuis recluse et fait l'objet de mesures de protection spécifiques. On va essayer de se demander pourquoi aujourd'hui avec d'abord Razika Adnani. Razika Adnani, bonjour. Vous êtes philosophe, islamologue, franco-algérienne, membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, membre du conseil scientifique du Centre civique d'études du fait religieux et présidente fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre dont le titre est en train de m'échapper là, mais je voulais me le rappeler tout de suite.
Je ne sais pas lequel, la nécessaire réconciliation
voilà,
peut-être.
C'est ça, la nécessaire réconciliation.
Ouais.
Voilà, Jean-Éric Ciotti, bonjour. Vous avez été secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007 et vous êtes depuis 2018 vice-président de la Commission du secret de la défense nationale qui s'occupe de la déclassification des informations sensibles. Martine Serre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe de formation, vous êtes créatrice d'Égal, Égalité et Laïcité Europe, dont vous êtes la secrétaire générale. Vous assurez aussi la direction du site de l'association et vous avez publié de nombreux articles. Et enfin, Richard Malka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat de Charlie Hebdo depuis 92, auteur de plusieurs bandes dessinées, de deux essais, d'un roman qui s'appelle Tyrannie. Et enfin, vous êtes l'avocat de Mila. C'est par vous que je vais commencer. D'abord, je voudrais qu'on écoute la vidéo d'origine qui a déclenché toute cette histoire.
Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain.
Voilà, et au vu des premières réactions, Mila a renchéri, on a rajouté une couche qu'on écoute.
J'en ai clairement rien à foutre, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir.
Voilà. Alors, Richard Malka, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à l'heure où on parle je crois que Mila est toujours pas rescolarisée.
Non.
Et quelle est la situation?
Alors, la situation a évolué un peu cette semaine. D'abord, oui. Parce que le parquet et on l'attendait évidemment, et je pense qu'il ne pouvait en être autrement, clos le dossier ouvert sur une éventuelle incitation à la haine, disant le droit, disant que donc il n'y avait eu aucune infraction réalisée par Mia et que ses propos s'inscrivaient totalement dans la liberté d'expression. Et puis sur le plan de sa scolarité, pour l'instant, les parents sont en contact avec le rectorat, le ministère de l'Éducation, mais malheureusement aucune solution n'a été trouvée satisfaisante en termes de sécurité pour Mia. Donc voilà, des recherches de solutions sont en cours, mais ça fait maintenant deux semaines, donc quasiment qu'elle est déscolarisée et c'est préoccupant. Et ça devrait tous nous interroger. Une jeune fille de 16 ans tient des propos qui sont véhéments, mais qui sont l'expression de son âge aussi, mais qui s'inscrivent totalement dans son droit, et elle ne peut plus être scolarisée.
Voilà.
Martine Serre, une réaction à cette une première réaction avant qu'on creuse.
Oui, une première réaction. Je voulais juste dire que je ne suis pas philosophe, mais plutôt mathématicienne de formation.
D'accord, okay, autant pour moi.
Mais bon, indépendamment de ça, bien évidemment, on est absolument consterné de voir que la liberté d'expression est négligée au point qu'un dans un premier temps, le parquet demande une enquête à l'encontre de Milia pour vérifier qu'il n'y a pas atteinte à la haine, qu'il n'y a pas de haine raciale, d'appel à la haine raciale. Alors que tout le monde a suffisamment, il suffisait d'écouter les mots qu'elle a prononcés pour se rendre compte que ce n'était pas le cas. Donc là, il y avait déjà quelque chose de très préoccupant, c'est qu'on renvoie dos à dos victime et agresseur, ce qui est quand même très gênant.
Jean-Éric Chouetti.
Oui, dans cette affaire, tout est chimiquement pur. Il y a d'abord la réaction de l'intéressée au tout début de l'affaire, c'est avant qu'elle ne profère. Enfin, qu'elle énonce son opinion sur la religion islamique. Il y a tout ce qui s'est passé entre les jeunes et elle qui est déjà déplaisant. La deuxième chose très très symptomatique, c'est la surréaction par rapport à ses propos relatifs à la religion, avec des menaces de mort, des injures. Vous disiez tout à l'heure 200 à la minute. Bon, donc là, ça pose un énorme problème à la société française. Et la troisième chose symptomatique, et là encore on est dans le chimiquement pur, c'est les atermoiements des pouvoirs publics, notamment du côté de la justice. Alors, il y a cette deuxième enquête ouverte par le parquet, qui semblait tenir la balance égale en quelque sorte entre les menaces de mort d'un côté, et puis... Et puis des propos d'une gamine de 16 ans sur Instagram. On sait bien que sur ces réseaux sociaux, les jeunes tiennent un langage assez cru. Bon, ça serait pas la première fois. Donc cette deuxième enquête, comme si il fallait absolument, montrer qu'on était très très vigilant sur le terrain de l'islamophobie, etc. Mais il faut quand même dire qu'au bout de 3 jours, cette deuxième enquête est close. Et il faut quand même reconnaître au parquet qu'il est venu à récipiscence. Il est revenu à récipiscence en publiant un communiqué. Je vais vous lire quelques lignes.
Oui.
Parce que c'est quand même, si vous voulez, tout à son honneur. Autant moi j'ai été très sévère, autant il faut bien... Alors il dit, il tient la bonne théorie, c'est-à-dire celle qui résulte de la loi et de la jurisprudence constante sur ces questions. Alors voilà, les investigations conduites aux fins d'exploitation des propos diffusés, d'analyse de leur dimension contextuelle, de la personnalité de leur auteur et des finalités poursuivies n'ont révélé aucun élément de nature à caractériser une infraction pénale. Et de poursuivre, l'enquête a démontré que les propos diffusés, quelle que soit leur tonalité outrageante, avaient pour seul objet d'exprimer une opinion personnelle à l'égard d'une religion, sans volonté d'exhorter à la haine ou à la violence contre des individus à raison de leur origine ou de leur appartenance à cette communauté de croyance. Alors je veux dire que là, la position du parquet est finalement claire. Tel n'est pas le cas des propos de la garde des Sceaux, qui dans un premier temps...
On va y revenir. Et Razika Adnani.
Je pense, quelle que soit la situation et quels que soient les propos de Mila ou d'une autre personne, je pense que dans une société civilisée, personne n'a le droit d'appeler à tuer une autre personne ou... à tuer ou à inciter à tuer une autre personne parce que il n'est pas ou elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Donc dans une société civilisée, les individus ne se font pas justice eux-mêmes. Ils ne se substituent pas au droit. Donc nous sommes dans une situation qui est inacceptable pour la France et très inquiétante également. Car je pense que cette situation qu'on appelle l'affaire de Mila, en réalité, c'est une affaire de la République française elle-même.
Oui, c'est ce que vous avez écrit dans Marianne. Donc,
voilà,
dans
c'est Marianne. Ce que j'ai écrit. Donc les menaces qui sont proférées contre Mila incarnent en réalité des menaces qui sont proférées contre la République française, ses lois, ses principes et ses valeurs.
Vous dites dans Marianne, de jeunes Français pensent donc que l'islam prime sur les valeurs et les lois de la République. Ces jeunes sont influencés par un discours fondamentaliste dont la stratégie consiste à affaiblir le droit et à le faire reculer. C'est un discours qui a fait échouer les projets de construction d'État moderne dans les pays arabes et au Maghreb. Ce qui s'est passé avec Mila révèle l'ampleur de l'influence du fondamentalisme islamique dans la société française. C'est ça.
En effet, étant donné que le fondamentalisme islamique et islamiste en même temps prend des valeurs et des normes d'organisation sociale qui remontent au premier siècle de l'islam. Et donc c'est une époque qui n'est pas la nôtre. Et dans ce cas, quand on dit à ces jeunes, voilà les normes qu'il faut appliquer quand on est musulman, évidemment, ce discours influence d'une manière très négative le comportement de ces jeunes musulmans français qui pensent que défendre leur religion est plus important donc que respecter les lois de la République. Et qui pensent aussi qu'ils ont le droit de menacer de mort une personne sous prétexte qu'ils défendent leur religion.
Alors, il y a l'islamisme et puis il y a aussi une bonne dose d'immaturité. Je voudrais qu'on écoute, on l'a déjà entendu un peu, plusieurs fois, mais je voudrais qu'on écoute la phrase du délégué général du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, le 27 janvier dernier.
Moi, je dis cette fille, elle sait ce qu'elle a dit, elle a pris ses responsabilités. Eh bien, écoutez, maintenant, elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit.
Et il faut la comparer avec les interviews qui ont été faites des élèves du collège de Mila, parce que c'est intéressant de mettre les deux en rapport.
Sans la connaître bien, on pensait pas qu'elle avait ce genre de pensée. Surtout qu'elle est dans un lycée où il y a une grosse partie de personnes musulmanes et avec qui elle les voit tous les jours.
En sachant que je suis musulmane, ça m'a fait quelque chose quand même. J'ai vu qu'elle comprenait rien du tout en fait. Elle dit qu'on ne peut pas être raciste d'une religion alors qu'elle s'appelle l'islamophobie. Je pense qu'elle a voulu faire du buzz, elle a réussi. C'est dommage pour elle parce qu'à la fin, c'est elle qui vient plus en cours.
Voilà, alors là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on a le responsable, interresponsable, le délégué général du Conseil français du culte musulman qui s'exprime comme des adolescents de 14 ans avec le même niveau de réflexion et les adolescents de 14 ans qui parlent à leur tour d'islamophobie, mais manifestement sans savoir vraiment de quoi ils parlent. Richard Malka.
Ouais, mais c'est ce qu'on vient d'entendre résume toute la difficulté dans laquelle on est. Alors, je vais pas revenir sur les propos de monsieur Zekri. Je crois que celle qui les a le mieux qualifiés, c'est Marlène Schiappa. Ils sont criminels. Mmh. Moi, je vis ces situations-là depuis maintenant longtemps. D'abord, en défendant Charlie Hebdo et puis en défendant beaucoup de personnes et en particulier des musulmans traînés devant les tribunaux par des associations de l'islam politique. Et je sais que les mots parfois ne restent pas que des mots. C'est-à-dire que quand on dit à des personnes, quand on dit elle l'a bien cherché, faut qu'elle assume, c'est une sorte de feu vert donné pour le passage aux actes. Et c'est quelqu'un qui a 65, 70 ans, qui est responsable d'une des plus grandes associations représentatives de l'islam de France, qui tient ces propos-là. C'est pas neutre. C'est effectivement irresponsable et en réalité criminel. Et ce monsieur ne devrait plus avoir ce poste-là dans un pays normal. Il devrait être démissionné. Parce que ce niveau-là d'irresponsabilité, de mise en danger de la vie véritablement d'autrui. Après tout ce qui s'est passé dans ce pays, c'est inacceptable. Il y a un problème de crédibilité. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on entend du côté des enfants. Vous avez Mila qui dit on ne peut pas être raciste envers une religion. Et là, elle résume tout. Et puis vous avez une autre jeune fille qui utilise ce fameux concept d'islamophobie. Et là, on voit à quel point il est pernicieux et à quel point on a retourné la tête de ses enfants avec ce concept-là. Non, l'islamophobie n'est pas un délit, monsieur de Normandie. Non, il n'y a pas de retenue à avoir à l'égard des religions, madame Aubry. Non, l'offense à la religion n'est pas un délit, madame Belloubet. Mm-hmm. Ça, c'est le droit. Et c'est la République. Mmh. Et la confusion absolue qui est faite, c'est entre ces deux notions que sont le droit au respect des personnes. Et évidemment, celui-là, il existe. Il faut le respecter. On doit respecter les personnes. Et le droit au respect des croyances des personnes. Et là, il n'y en a pas. Parce que si je dois respecter les croyances des personnes, alors je ne peux pas critiquer une personne qui pense que la Terre est plate ou que le 11 septembre n'a pas existé.
On va venir à cette question-là.
Et c'est tout. C'est toute la confusion.
Tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, là, dans un premier temps, c'est la question de l'immaturité. Parce qu'on dit toujours que c'est une gamine de 16 ans qui parle, il ne faut pas y faire attention. Mais enfin, est-ce que ce n'est pas elle qui dit des choses de bon sens et les autres qui sont complètement immatures, en fait?
Oui. Oui, je crois qu'effectivement, on peut dire ça. Elle a, manifestement, dans ses propos, elle montre qu'elle a tout compris de l'état de droit, de la liberté d'expression, des limites de la liberté d'expression, puisqu'elle sait très bien qu'elle n'attaque pas les personnes. Et la nuance qui nous paraît quand même assez évidente et assez simple à percevoir, on se rend compte qu'elle n'est pas perçue par un certain nombre de gens, dont Zekri et dont les jeunes, jeunes condisciples de Mila, qui ne savent pas comment fonctionne un état de droit et qui ne savent pas ce que c'est que la liberté d'expression. Et là, je crois qu'on a un problème de pédagogie auprès de nos jeunes. Qu'il y ait des islamistes et un islam politique à l'œuvre dans sa propagande, on n'en doute pas, bien entendu. Mais il faut quand même faire le nécessaire pour que ce ne soit pas cette propagande-là qui soit entendue en priorité. Il y a des cours d'EMC, d'éducation morale et civique, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui aujourd'hui ne donnent pas forcément les résultats escomptés. Il faut se poser des questions sur comment on fait passer le message de l'état de droit et des libertés qu'il garantit auprès des jeunes.
Mais alors, une des accusations qu'il lance à Mila, c'est son immaturité à cause du langage fleuri et direct qu'elle emploie. Mais dans le numéro à sortir mercredi de Charlie Hebdo, il y a deux papiers intéressants. Et un papier de Yannick Enel qui rappelle que Mila est peut-être une sadienne sans le savoir, parce que on trouve exactement ce type de réflexion dans Sade, d'une part.
Oui, dans Sade, dans Nietzsche, dans le Tréhamon, oui, dans Voltaire.
Dans le Tréhamon, absolument. Oui, oui. Et d'autre part, Tania de Montaigne, dans le même numéro, se demande si une partie du scandale ne vient pas que c'est une femme qui s'exprime. Parce que quand une femme parle mal de Dieu, elle transgresse deux fois. D'une part, parce que c'est une créature humaine, donc faillible, qui défie un être parfait, mais aussi parce que c'est une femme qui parle à une instance identifiée par tous les inconscients collectifs du monde comme étant une entité de sexe masculin. Est-ce que ça fait sens pour vous, Razika Adnani, qui veut parler là-dessus?
Je ne dirais pas cela. Moi, je pense que pour beaucoup de musulmans, il suffit de critiquer l'islam et de le critiquer de cette manière-là, et pour qu'on soit attaqué. Donc, c'est.
Pensez pas que, par exemple, les menaces de viol qui ont été lancées à son encontre ont à voir avec le fait qu'il s'agit d'une femme?
Les menaces de viol, évidemment, parce que c'est une femme. Oui. Mais même si c'était un homme qui a tenu des propos aussi critiques envers l'islam, il y aurait aussi des menaces de mort à son égard. Juste pour ouvrir une parenthèse, ces jours-ci, en Algérie, il y a un intellectuel qui est aussi, lui, menacé. Il a été déjà menacé l'année dernière. Nous l'avons soutenu et cette année aussi, il est quand même assez menacé par les conservateurs. Ils sont menacés pour leurs idées, pour leur critique de l'islam, qu'ils soient hommes ou femmes. Peut-être une femme avec ces menaces de viol, évidemment, ça fait un peu plus, mais je pense que c'est le fait de critiquer l'islam. Mmh. Pour beaucoup de musulmans, on ne peut pas critiquer l'islam. Mmh. Et la réaction de M. Zekri nous montre un petit peu comment la majorité des musulmans qui sont dans cette façon de voir les choses réagissent dès qu'il s'agit de la critique de l'islam.
Martine Serre, sur l'aspect femme.
Oui, moi je crois que cette dimension existe. Elle existe au moins dans la relation entre le premier qui l'a injurié et elle.
Oui.
Parce que manifestement, il s'est comporté comme un homme qui pensait que cette femme était à sa disposition et qu'elle n'était pas censée repousser ses avances. Donc il a surréagi par rapport au refus de Mila, et en l'insultant et en commençant déjà à bien faire monter, je dirais, la température de l'échange. Donc cette dimension existe indéniablement. Mais l'autre a pris le dessus, bien évidemment, après.
Jean-Yves Chatti.
Oui, ce qui me frappe beaucoup, c'est en effet la coïncidence des positions entre ces jeunes et la réaction d'un Zekri qui devrait rappeler tout le monde à l'ordre.
Mais oui.
Et cette position, c'est un énorme contresens sur ce que c'est que la liberté d'expression en France, un énorme contresens également sur le fait qu'en attaquant la religion, on n'est pas raciste. Bon. Et celle qui, paradoxalement, rétablit la vérité républicaine, c'est quand même Mila qui dit « Mais non, moi je ne suis pas raciste en attaquant la religion, et en attaquant la religion, je n'attaque pas les musulmans. » Et quand on entend ses propos, si fort soit-il, si cru soit-il, à aucun moment elle n'attaque les musulmans. Bon, alors, ce qui est désespérant dans cette affaire, c'est que quelqu'un réputé modéré, enfin qui n'est pas un islamiste patenté, disons, qui devrait dans cette affaire, la rappeler tout le monde à l'ordre, dire bon, il n'y a rien de plus affreux que qu'une menace de mort, que de tuer. Et bon, et pas en mon nom, qui devrait être le porte-parole du pas en mon nom, abonde. Et elle a bien cherché. Et alors elle a bien cherché, on a envie de lui demander, oui, mais attendez, s'il y avait une suite dramatique dans cette affaire, c'est ça que
ah oui, bien sûr.
Vous couvrez
ce qui irait à ce moment-là, bien sûr. Alors on va, allez-y, Razika Adnani.
Je voudrais juste dire que Mila a provoqué avec ses propos, la provocation ne justifie pas la violence. Mmh, et dans une société, nous n'avons pas tous les mêmes idées, les mêmes convictions, les mêmes intérêts. Et donc, si la différence, l'autre qui est différent, on prend la différence comme une provocation, dans ce cas, vivre en société serait une guerre de tous contre tous, mmh, si la provocation justifie la violence. Donc le discours de Zekri, on comprend par là qu'il considère que le fait de provoquer est une justification pour la violence. Et c'est très décevant parce que normalement, quand on parle au nom de l'islam et quand on s'adresse aux musulmans de France, je pense qu'il faut tenir un discours qui apaise plutôt qu'un discours qui attise la violence et les tensions. Et d'autant plus qu'il représente une des institutions ou des associations de l'islam de France. Je pense qu'il y a un travail à faire qui lui permette peut-être de tenir un autre discours.
Alors on va faire une petite pause musicale pour voir que les rapports de Dieu à la sodomie n'ont rien de neuf et ne se limitent pas à une enfant de 16 ans.
France Culture, signe des temps, Marc Wetzmann.
Cette histoire s'est passée très loin des oxydes de carbone, environ 3 millions d'années avant Michael Jackson. On peut donc affirmer sans offenser son archevêque que Dieu a la gueule et l'aspect d'un australopithèque. Dieu est un drôle de mec, un australopithèque. Oui, mais on l'aime quand même. Dieu est amour toujours. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et Jésus change de beurre.
Alors, avant d'aborder les questions un peu juridiques et les questions de fond sur cette histoire, je voudrais qu'on continue un instant sur les réactions et en particulier qu'on dise deux mots des réactions des médias et des médias de gauche notamment. Le 22 janvier, c'est-à-dire au tout début de l'affaire, Libé a consacré un check news un peu surréaliste. C'est trouvé que check news est en train de devenir quelque chose de très étrange, d'ailleurs entre parenthèses. Le titre était « Mila, 16 ans, a-t-elle été exfiltrée de son lycée par la police pour une vidéo anti-islam ?» Et il y est question d'un débat extrêmement polarisé. C'est comme ça que Libération appelle les menaces d'égorgement et de viol. Un débat est bien évidemment dit Libé, relayé notamment par l'extrême droite, avant d'appeler tout le monde au calme. Ni Télérama, ni Les Un Rock, ni Mediapart bien sûr, n'ont parlé de cette histoire au début. À Arrêt sur Image, la rédactrice en chef des Un Rock a expliqué que Les Un Rock ne parlaient plus de politique, ce qui est une on est content de l'apprendre parce que ça n'avait frappé personne jusqu'à présent. Et voilà, enfin, à l'exception de Marianne et du Point sous la plume de François-Olivier Gisbert notamment, mais pas seulement, et puis du Nouvel Observateur finalement sous la plume de sa rédactrice en chef Dominique Nora, la presse de gauche a été globalement silencieuse sur l'histoire pendant très longtemps, de même que la plupart des responsables politiques de gauche, avant de se mettre à expliquer que toute cette histoire était un rideau de fumée pour faire diversion du vrai problème qui est la retraite.
retraite, c'est ça.
Alors, sans parler des associations de défense des droits de l'homme, des associations féministes, des associations LGBT. Absolument. Et c'était d'ailleurs ce qui m'avait poussé à écrire ma tribune dans le JDD il y a une semaine, à un moment où je n'étais pas encore l'avocat de Mila. Ce silence-là, le fait de détourner les yeux à ce point-là, ça m'a stupéfait.
Oui.
Où est la gauche ?
Oui, tout à fait.
Ce sont nos valeurs, la laïcité, la liberté d'expression, le droit au blasphème. Une adolescente de 16 ans qui se fait menacer d'être égorgée ou d'être violée, comment peut-on rester silencieux ?
Alors, je voudrais qu'on écoute juste une seconde la déclaration faite par le premier secrétaire du Parti Socialiste au Petit Journal, justement là-dessus.
Écoutez, moi j'ai découvert cette affaire relativement tardivement, et après je me suis posé une question très simple. Est-ce que, en rentrant dans la polémique, on sert cette jeune fille qui a 16 ans, ou est-ce qu'on la dessert ? Est-ce que, quand elle devient finalement l'objet d'un cyclone médiatique, est-ce que on l'aide à vivre tout simplement, ou est-ce qu'au contraire, on la met dans une situation où on la met en danger ?
Alors c'est remarquable parce que là, ce que t'es en train de nous expliquer le premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est que en parlant de ce qui se passe, on menace Mila, mais en la laissant se faire menacer d'égorgement, on la protège. C'est fascinant.
Oui. C'est tout un continuum. Hein. On commence par, le silence assourdissant.
Bon,
les associations, etc. Alors, deuxième degré dans l'échelle. On justifie le silence pour le bien intéressé. C'est pour son bien. Bon. Et alors, quand même, il y a aussi la tentative de discréditer. Alors, c'est l'article de Libération dont vous parliez. D'abord, exfiltré par la police, non complicité policière.
Oui.
Et puis, voilà, l'extrême droite s'intéresse à elle, donc c'est louche et ça pollue la cause.
Voilà.
Donc on a la gradation.
Et personne ne pense que si l'extrême droite en parle, c'est que personne d'autre n'en parle. C'est remarquable.
Oui, ça fait quand même très longtemps qu'à gauche, on renonce à parler de quelque chose dès lors que l'extrême droite en a parlé. Ce qui fait que maintenant, la gauche ne parle plus de rien parce que l'extrême droite a parlé de tout.
Oui.
C'est très attristant.
C'est ça. Mais alors, une des questions qui se pose, c'est de savoir si, d'une part, sans cette levée de bouclier de quelques personnes, enfin de gens très déterminés, est-ce que la garde des Sceaux serait revenue sur ces déclarations, d'une part ?
On parle des déclarations de
la garde des Sceaux.
Il faudrait savoir si elle est revenue. Bon, dans un premier temps, elle nous dit, c'est le 29 janvier sur Europe numéro 1, c'est ça. L'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de croyance. Je crois qu'elle dit même, est évidemment une atteinte à la liberté de croyance. Bon, là, emboîtant le pas au procureur de la République de Vienne, lequel, comme on l'a dit tout à l'heure, était revenu à de meilleurs sentiments par la suite. Donc faisons le parallèle entre les menaces de mort et l'insulte à la religion. Alors, ça a troublé. Elle a fait une mise au point. Et dans cette mise au point, elle dit, j'ai probablement commis une maladresse. Mais si je lis bien l'intégralité de cette déclaration...
Elle dit exactement, j'ai voulu dire que dans notre démocratie, les injures ou les discriminations en raison de l'appartenance religieuse, c'était une infraction et que cette infraction pouvait être grave parce qu'elle conduisait à la haine ou au rejet.
Autrement dit, ce qu'elle dit, c'est « Oh, moi, je crois, comme tous les républicains, qu'il est légitime de critiquer la religion. Mais, à partir du moment où ça prend un tour injurieux, ça devient une offense, une injure faite aux croyants, et ça tombe sous le coup de la loi pénale, plus particulièrement l'article 33 de la loi de 1881, depuis les lois plus vaines. Bon, donc, en quelque sorte, elle aggrave son cas, elle ne rectifie pas le tir.
Ah oui, c'est ça. Et en gros, elle dit quelque chose qui a été repris, qu'on entend seriner aujourd'hui, malgré tout. C'était la tonalité dominante dans l'émission « Touche pas à mon poste » il y a deux jours, je crois. C'est sur Twitter, certains militants islamistes le disent. Hein. Nicole Belloubet a parfaitement raison, et vous le savez tous, l'insulte à la religion doit être sanctionnée. Mila ou pas Mila, c'est pareil. Ça, c'est la journaliste Faïza Ben Mohamed. Il y a un certain nombre de. C'est en gros, c'est cette narration-là qui passe. Et une des questions qui se pose, c'est pourquoi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ont laissé cette narration s'imposer? Est-ce que c'est dans la perspective des municipales? Est-ce qu'on assiste à un exemple de clientélisme politique?
Je pense il y a un volet électoraliste, mais je crois que c'est malheureusement plus profond que ça. D'abord, je voudrais dire que on parle de la gauche, et moi-même, j'ai parfois le tort de globaliser. Il y a aussi des îlots de résistance. Le PRG a fait un communiqué, une déclaration très vite et très claire et très courageuse. Et d'autres aussi. Mais surtout, moi, je rencontre tous les jours le peuple de gauche, qui se sent complètement abandonné par la presse de gauche que vous évoquez, par les politiques qui ne savent plus comment faire pour justifier leur silence. On est dans une situation, il y a une responsabilité historique de ces acteurs-là aujourd'hui, qui laissent tomber leurs électeurs en même temps que leurs valeurs et que les valeurs républicaines. Et ça ne peut pour moi que mal finir.
Oui, tout à fait. Mais pourquoi? C'est la question. Est-ce que c'est
parce que il y a une problématique dans la gauche qui il y a un ADN de défense des libertés et de la liberté d'expression et de la laïcité et du blasphème, mais en même temps il y a un ADN de défense des victimes, des plus faibles, des minorités. Et elle ne sait pas comment rendre compatibles ces deux idées-là. Et elle n'a pas compris qu'en défendant les religions, eh bien, elle ne défend pas les hommes. Et au contraire, elle renonce à l'émancipation des hommes à l'égard de leur religion. Et tant qu'elle n'aura pas compris, tant que la gauche n'aura pas clarifié ses positions sur ces thématiques-là, eh bien, elle a explosé, par ailleurs. Le PS n'existe plus en partie sur cette question-là, et ça continuera. Et elle a une responsabilité historique. Et si tout le monde était clair, et si tout le monde avait été clair déjà sur Charlie Hebdo, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Oui, Martine Serre.
Oui, je voulais dire qu'il n'y avait pas que la gauche qui était divisée sur ces questions-là, puisqu'on retrouve les mêmes divisions à La République En Marche.
Oui, absolument.
Avec des transferts de gauche en général.
Oui, absolument. Avec des transferts de gauche, c'est tout à fait juste. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a un déficit de réflexion sur les valeurs républicaines. Et quand on réfléchit un peu, qu'on revient aux fondamentaux, pourquoi on les a installés, ces valeurs, et pourquoi on doit les défendre pied à pied aujourd'hui, il n'y a aucune réflexion menée par ces partis. Sauf effectivement le PRG, qui est très avancé là-dessus, mais les autres sont très faibles.
Razika Adnani, sur le clientélisme politique.
Donc moi, je constate qu'il y a une régression par rapport à ces valeurs, les valeurs de la République, qui sont les valeurs de la modernité. Et là, je me pose des questions concernant l'évolution de l'humanité. Est-ce que l'humanité aujourd'hui est menacée par un retour vers l'obscurantisme, vers la loi de la jungle? Est-ce que l'évolution de l'humanité va continuer d'avancer pour aller vers un monde de meilleur et de relations avec l'autre qui seront encore meilleures, ou elle va régresser? Ce qu'on voit en France, c'est quand même très inquiétant, parce qu'on est en France. On n'est pas comme certains l'ont dit au Pakistan ou en Afghanistan. On est en France, et c'est en France qu'on remet en question des valeurs que les Français peut-être ont pensé à un certain moment qu'elles étaient acquises. Donc, et je pense que ce climat n'aide pas les musulmans de France. Pourquoi elle ne les aide pas? Parce qu'elle leur dit, vous avez raison de réagir négativement et avec violence à des propos, parce que ces propos critiquent votre religion. Mais en réalité, ces musulmans qui sont en France, ils sont minorités en France, ils sont des citoyens et citoyennes à part entière, grâce à ces valeurs françaises, grâce à ces lois françaises. Et les remettre en question, c'est comme je l'ai dit dans l'article, scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut tenir un autre discours à l'égard des musulmans de France et de leur dire, vous vivez dans un pays avec des valeurs, avec des lois qui vous permettent d'être protégés, de vivre votre religion librement. Donc ces lois, il faut les protéger, il faut les respecter, les protéger et non pas chercher à les affaiblir.
Alors il y a deux logiques qui sont à l'œuvre apparemment. Dans ce qu'on voit, il y a une logique qui est un vrai retournement victimaire, hein, c'est-à-dire que ce à quoi on assiste, c'est insulter une conviction, ça devient insulter les personnes qui partagent cette conviction, Germain Gaz, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et les procureurs accusent les blasphémateurs au nom d'une autorité transcendante. On parlait tout à l'heure, on a évoqué très rapidement tout à l'heure, Jean-Yves Chetty, la loi de 72, il serait peut-être bon d'y revenir, c'est la loi Pleven, c'est ça, hein. Vous pouvez nous expliquer en deux mots?
Oui, alors, si vous voulez, la loi Pleven, en 72, introduit la notion de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence, et d'autre part, injure et diffamation à raison de l'appartenance, notamment à une religion, mais aussi à une origine ethnique.
C'est une loi contre le racisme, hein, au départ.
C'est la loi Pleven, et puis des lois qui se sont succédées, qui ont à la fois allonger la liste des groupes protégés et renforcer la répression. Bon. Mais depuis au moins 1984, c'est la dernière affaire où je crois le juge a donné raison. C'était Monseigneur Lefebvre qui a signé la fiche Ave Maria. Bon, il a donné raison. Mais depuis, la jurisprudence est constante en ce sens que la critique des religions, même véhémente, même injurieuse, la caricature, même outrancière de leur figure sacrée, ne sont jamais une injure à l'égard des croyants. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi, dans ce contexte-là, et alors que le délit de blasphème a été aboli en 1880, on a une garde des Sceaux qui tient des propos qu'elle tient. Alors, je crois que c'est profond, je pense pas que ça soit électoraliste, je crois que c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est pas propre à la gauche, je suis bien d'accord. Je crois que ce à quoi on assiste, c'est à une alliance entre, disons, une cabale de dévots d'un nouveau type, parce que là, c'est plus Monseigneur Lefebvre, et puis une sorte de souci exacerbé de ménager la sensibilité de l'autre.
Voilà.
Et le risque aujourd'hui, c'est qu'au nom de la lutte contre les phobies, hein, homo, islamo, etc., et contre les discriminations, le droit pénal soit requis de protéger contre toute raillerie, contre toute désobligeance, la sensibilité des membres des groupes républicains, et que dans le cadre de cette protection, les croyances de la victime soient regardées comme consubstantielle à sa personnalité, comme à la définition de son groupe d'appartenance, et du coup le glissement à une insulte à la croyance devient une injure aux croyants. Devient en quelque sorte naturel pour cette.
Alors c'est au début, c'est en 84 que Monseigneur Lefebvre a utilisé la loi de 72 contre l'injure ou la discrimination en fait dans le cadre de cette histoire de l'affiche du film de Jacques Richard Ave Maria pour outrage aux sentiments catholiques. En 85, l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, a signé Jean-Luc Godard pour Je vous salue Marie. Et donc c'est intéressant parce que on voit bien là que ce sont les catholiques réactionnaires qui ont les premiers utilisé la loi de 72 et tracé un trait d'équivalence entre le racisme et l'outrage aux sentiments religieux. L'Association Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne a perdu son procès au moment de l'affaire Godard. Il s'en est suivi toute une politique d'occupation des tribunaux dans les années qui ont suivi, visant à défendre les sensibilités religieuses, en l'occurrence catholiques. Et on voit que là, les mouvements musulmans conservateurs, réactionnaires et islamistes s'engouffrent exactement dans cette brèche-là, en fait.
J'allais dire, ont pris le relais au moment où les catholiques, même les plus intégristes, ont cessé le feu. L'exemple, c'est quand même la chanson de Frédéric Fromé sur France Inter, sur Jésus Pédé, hein,
oui,
qui n'a ému que par son caractère éventuellement homophobe, hein, les excuses de l'auteur étant d'ailleurs exclusivement adressées à la communauté homosexuelle.
Oui. Et donc on voit ce qui se passe là, c'est que la sensibilité des croyants devient centrale, et c'est exprimé comme tel. Par exemple, à propos de l'histoire Mila, l'imam Boussena à Roubaix, par exemple, qui est membre des musulmans de France, ex-UOIF, donc proche des frères musulmans, dit et tweet « On insulte mon Dieu et ma religion copieusement de la manière la plus vulgaire, mais moi, je ne dois surtout pas dire ma blessure ». La loi donne le droit à Mila d'insulter la religion, ok. Du coup, si on se sent blessé par ses propos, on n'a pas le droit d'exprimer cette douleur par des mots et d'utiliser la même liberté d'expression sous peine d'être taxé d'islamiste.
On peut tout à fait exprimer sa blessure.
Bien évidemment.
Il l'exerce, en l'occurrence.
Mais il faudrait expliquer à ce monsieur qu'on peut être blessé sans menacer.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la mise en avant du sentiment de blessure. Oui.
Je voudrais juste répondre à cet imam que dans le Coran aussi, il y a un verset, le verset 105 de la sourate 5, de la sourate La Table Servie, qui dit clairement aux musulmans que si vous êtes responsable de vos propres actes et si l'autre s'est égaré, et si vous avez pris le bon chemin, il ne vous nuira point. Autrement dit, même si il y a une personne qui insulte ou qui fait des critiques au sujet de l'islam, même si cela ne nous plaît pas, si nous sommes sur le bon chemin, normalement un musulman, ça ne le dérange pas tant que lui est sur le bon chemin. Mmh. Et il y a même un verset qui le lui dit clairement. Mais évidemment, la majorité des musulmans aujourd'hui n'utilisent pas ce verset, ils utilisent d'autres versets qui appellent à la réaction violente à l'égard de toute personne qui s'amuse ou essaye de critiquer l'islam, comme quoi ce sont des ennemis de l'islam et qu'il faut les combattre. Or, il y a aussi dans les textes d'autres versets. J'ai cité celui-ci, je peux citer un autre verset, le 125 de la sourate 16, la sourate des abeilles, qui dit qu'un musulman doit répondre. Il appelle et il demande aux musulmans et il fait une injonction, répondez avec un dialogue de la manière la meilleure qui puisse exister. Donc on peut aussi répondre à des critiques on doit même répondre avec un discours de dialogue, un discours d'échange et dans le respect sans aller vers la violence.
Et alors l'autre point sur lequel j'aimerais finir cette émission, mais s'il nous reste un peu plus de 2 minutes, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean-Éric Chotis, c'est la redéfinition de la personne juridique qui inclurait finalement les convictions au sein la personne deviendrait ses convictions en quelque sorte, Martine Serre.
Écoutez, c'est effectivement une des thèses que défend Catherine Kinsler aussi dans son excellente tribune. Exactement. Et manifestement, on est en train de faire la confusion entre un individu et ses idées. Un individu n'existe pas que par sa croyance. Il n'a pas qu'une dimension qui serait sa croyance et qui le qualifierait totalement. Donc c'est une identification de fait, c'est certainement pas une identification juridique, fort heureusement, parce que le jour où c'est une identification juridique, je crois que nous perdrions beaucoup de liberté. Il ne faut certainement pas céder. Et je voudrais revenir aussi rapidement sur ce qui a été dit sur l'avenir de l'humanité. L'Association humaniste internationale a publié la carte de la liberté de conscience dans le monde.
Oui.
Les pays rouges, c'est là où il n'y en a pas. Et les pays verts, c'est là où il y en a. La France et une partie de l'Europe occidentale est verte. Mais il fait partie de petits villages gaulois. Il fait figure de petits villages gaulois quand on voit la map monde.
Oui.
Et il faut se rendre compte que nous avons un bien très précieux qu'il ne faut absolument pas laisser filer parce que la tendance mondiale est précisément à la régression.
Oui,
c'est ce que disait madame tout à l'heure et ce que vous dites est tout à fait vrai. Renoncer à la libre critique des idées et des croyances et des religions, c'est un chemin direct vers l'obscurantisme. Moi, j'ai toujours en tête les mots que nous a adressé Amadi Redici, politologue tunisien, célèbre, universitaire, au moment du procès des caricatures. Si vous cédez sur cette question-là, ce sera fini.
Voilà, on va finir cette émission sur une chanson qu'on va dédier à toutes les Mila de ce monde. Jésus est mort pour les péchés de quelqu'un, mais pas pour les miens. Les gens me disent fais gaffe, mais moi je m'en fous. Quand j'entre dans une pièce, j'ai l'air fier, j'avance dans cette atmosphère et tout est permis.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone. My sins, my own, they belong to me. Me. People say, beware. But I don't care. The words are just rules and regulations to me. Me.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
France Culture, l'esprit d'ouverture.